Merci d'écouter RFI. 8h à Paris, 1h de moins en temps universel.
RFI Matin.
Et 9h à Goma, le journal de Jeanne Bartoli et la Cisjordanie occupée. Jénine, de nouveau la cible d'une opération de l'armée israélienne depuis hier.
Les opérations se multiplient depuis la mi-janvier dans ce bastion des groupes armés palestiniens. Drones, raids de soldats, bulldozers. Les destructions sont très importantes. On retrouve nos envoyés spéciaux dans un instant. Des meurtres à caractère confessionnel dans le centre de la Syrie. Voilà ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les minorités ciblées depuis la chute de Bachar al-Assad, la minorité alaouite à laquelle appartenait le dirigeant syrien, ce sera l'objet du dossier de ce 8h. À la une également, la République démocratique du Congo. La mission des Nations Unies annonce l'évacuation de Kinshasa des familles de personnel de la MONUSCO. Et puis Donald Trump qui continue sa politique de menace d'imposition de droits de douane. La riposte s'organise en Europe, mais aussi en Chine. Nous serons à Pékin.
Benjamin Netanyahou est arrivé à Washington.
Le premier ministre israélien va devenir le premier dirigeant étranger reçu par Donald Trump depuis son investiture. La rencontre aura lieu demain. Et alors que les négociations pour la phase 2 de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont censées démarrer aujourd'hui, l'armée israélienne multiplie les opérations en Cisjordanie occupée. Elle affirme avoir tué plus de 50 terroristes. Ce sont les termes qu'elle emploie, et ce en l'espace de 15 jours. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Envoyé spécial d'RFI avec les moyens techniques de Nicolas Benita. Muriel, l'armée israélienne se concentre particulièrement sur la ville de Jenin avec hier après-midi une vaste opération de destruction.
Oui, les images d'explosions simultanées sur Jenin ont fait le tour des réseaux sociaux hier. Des images impressionnantes, d'épaisses colonnes de fumée s'élevant de différents endroits de la ville. L'armée israélienne affirme avoir détruit plus de 20 bâtiments qui abritaient, selon ses termes, des infrastructures terroristes. Mais selon l'agence de presse palestinienne Wafa, de nombreux habitants ont perdu leur maison et l'hôpital de Jenin a subi des dégâts. Israël mène depuis une dizaine de jours une vaste opération sur la ville, notamment son camp de réfugiés connus pour abriter des combattants armés liés au Hamas et au djihad islamique. Dans ce genre d'opération, des civils sont aussi touchés. Hier, un homme de 73 ans a été tué par un tir, selon l'autorité palestinienne. Alors Israël intervient régulièrement en Cisjordanie occupée, mais ça a été particulièrement violent ces derniers jours. Bombardements aériens, incursions avec des véhicules blindés, destruction au bulldozer. Et ce qui est nouveau, c'est qu'une partie de la population a été forcée par l'armée israélienne d'évacuer le camp de Jenin. Les Palestiniens dénoncent ces opérations et ces expulsions. Après la trêve à Gaza, Israël, disent-ils, a décidé de faire la guerre en Cisjordanie occupée.
Muriel Paradon, en direct de Tel Aviv, avec les moyens techniques de Nicolas Benita. Merci à tous les deux.
La situation au Proche-Orient abordée hier par Emmanuel Macron.
Oui, Emmanuel Macron qui s'est entretenu par téléphone avec l'émir du Qatar. Selon l'Elysée, les deux dirigeants ont réaffirmé la priorité absolue de la libération de tous les otages dans les plus brefs délais et la nécessité d'œuvrer aux conditions d'un retour de la paix. Ils ont également abordé la situation en Syrie, exprimant leur soutien à une transition politique inclusive et respectueuse des droits de toutes les minorités syriennes.
Certaines minorités syriennes dont le sort préoccupe depuis la chute de Bachar al-Assad.
Oui, c'est le cas de la minorité alaouite, minorité chiite dont était issu Bachar al-Assad. C'est le dossier de ce 8h. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté à des meurtres à caractère confessionnel dans le centre du pays, des exactions attribuées à des assaillants de la coalition armée Ayat Tahrir al-Sham, dominée par des combattants sunnites. Bonjour Abla Junaidi.
Bonjour.
Pourtant son chef, le nouveau président par intérim de la Syrie, Ahmed al-Shara, a promis d'empêcher ces violences.
Oui, depuis la chute de la dictature de Bachar al-Assad, des opérations de ratissage menées par HTC ont lieu pour débusquer ses derniers fidèles en armes et les criminels présumés dans les régions de peuplement alaouite près de Homs et sur la côte syrienne. C'est dans ce cadre-là que les crimes extrajudiciaires se déroulent, selon l'OSDH. Le 23 janvier, des combattants non identifiés entrent dans le village de Fahel, près de Homs. Ils tuent une dizaine de personnes, en arrêtent des dizaines d'autres, dont cet homme. Il a requis l'anonymat pour nous raconter sa détention et son interrogatoire.
Il me demandait, t'es alaouite ? C'est quoi ton travail ? T'es officier ? T'as été formé en Russie ? Je leur ai répondu « pas du tout, je ne suis pas officier ». À plusieurs reprises, ils m'ont violemment giflé, puis ils m'ont jeté au sol avant de me frapper avec un bâton. Ensuite, ils m'ont mis à l'arrière d'un pick-up blanc avec d'autres prisonniers et ils nous ont transférés à l'entrée de la commune. Des gens nous attendaient pour nous éliminer.
Alors ça, c'est ce que craint cet homme, Abla. Finalement, il a été transféré dans une autre prison.
Mais d'anciens officiers sont tués sur place. Notre témoin, lui, transite par la prison de Homs où il dit assister à des faits de torture sur d'autres alaouites. Il est finalement libéré dans un piteux état, faute de preuves. Beaucoup de membres de sa communauté ont lié leur destin à l'ancien régime et ont participé à la répression féroce de l'opposition. C'est à Houla, près de Homs, qu'a eu lieu l'un des pires massacres de la révolte syrienne contre des familles sunnites. De quoi alimenter le désir de revanche et susciter l'inquiétude chez les alaouites. Ariad Ranem est docteur en relations internationales, il est franco-syrien, il documente sur le terrain le sort de cette communauté.
Il y a peut-être encore une volonté politique à avoir davantage pour mieux inclure en fait les minorités, notamment les minorités de la côte syrienne, et pour vraiment garantir l'expression de leurs inquiétudes, la documentation des violences et des abus qui sont commises en vue d'une justice, et aussi la prise en compte de leurs contestations, de leurs possibles mécontentements par des biais, des mécanismes, des relais qui pour l'instant ne sont pas visibles.
Pour l'heure, Jeanne May, malgré les déclarations rassurantes du nouveau président syrien, c'est la défiance qui règne.
Abla Jounaïdi, merci du service international d'RFI, dossier du 8h que vous retrouvez d'ores et déjà sur RFI.fr.
RFI à Goma, 98 FM.
Goma et Bukavu, il est 9h06, l'est de la République démocratique du Congo. Et cette question, Jeanne, y a-t-il un risque que ce conflit régional généralisé dans le sillage des combats entre les forces congolaises et le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda?
Et vendredi, le président burundais Evariste Ndayishimiye avait alerté sur le risque de conflit régional généralisé. Il avait aussi accusé le Rwanda de, je cite, préparer quelque chose contre le Burundi en soulignant que son pays n'allait pas se laisser faire. Le Rwanda a réagi hier sur notre antenne, parlé d'accusations sans fondement. Pour Jason Stearns, fondateur du groupe de recherche sur le Congo à l'Université de New York, le risque est bien réel, d'autant que l'armée du Burundi, officiellement déployée en RDC depuis août 2022 pour y traquer divers groupes armés, est très impliquée aux côtés des forces armées congolaises. Écoutez.
Aujourd'hui, alors qu'on se parle, il y a une guerre plus ou moins clandestine entre le Rwanda et le Burundi. Sur le sol congolais, il y a des milliers de soldats de l'armée nationale burundaise qui sont déployés à côté des soldats congolais. On parle des centaines de morts côté burundais et aussi des centaines de morts côté rwandais. Ça, c'est très dangereux, je pense, parce que compte tenu de l'histoire de la région où ces deux pays ont soutenu des rebelles respectivement de leurs deux pays, et je pense que c'était ça que le président Ndayishimiye était en train de dire, il y a un grand risque qu'il y ait une guerre ouverte entre ces deux pays aussi.
Le président burundais parle d'un conflit plus large à l'échelle de l'est du continent.
Ça, c'est plus difficile à entrevoir. La Tanzanie se sont montrés très réticents, très peu de déclarations de leur côté. Là où il y a un risque quand même plus fort, c'est en Afrique du Sud. C'est apparu dans les derniers jours des discussions entre Kagame et le président sud-africain Ramaphosa dans des termes très forts où Ramaphosa lui aurait dit que s'il y a davantage des soldats sudaf qui meurent sur le sol congolais, ils vont considérer ça comme une déclaration de guerre. Et donc là aussi, je pense que les tensions sont en train de monter.
Et le chercheur Jason Stearns, joint par Florence Maurice, a noté qu'hier, la mission des Nations Unies, la MONUSCO, a annoncé l'évacuation de Kinshasa des familles de son personnel. Décision annoncée dans l'après-midi avec effet immédiat et pour une durée de 3 mois.
Donald Trump doit discuter aujourd'hui avec le Canada et le Mexique.
Au sujet des 25% de droits de douane qu'il a imposés aux produits en provenance des deux pays et qui provoquent une sérieuse montée de tensions. Hier, le Canada a affirmé qu'il allait saisir l'Organisation mondiale du commerce. Autre riposte, celle qui s'organise en Chine. Pékin a dénoncé les nouveaux droits de douane de 10% imposés par les États-Unis sur les exportations chinoises. Bonjour Cléa Broderst. Correspondante permanente d'RFI en Chine. Cléa, est-ce que vous nous entendez ?
Oui.
Pékin promet de prendre des contre-mesures. Reste à savoir la méthode que va employer le régime chinois.
Bien, c'est-à-dire que les nouvelles taxes douanières américaines placent Pékin face à un dilemme. Riposter de manière agressive ou adopter une approche plus prudente. Et si la Chine ne fait rien, elle risque de paraître faible sur le plan intérieur. En revanche, si elle réagit avec force, la situation pourrait dégénérer en une guerre commerciale qui nuirait davantage à Pékin qu'à Washington. Et pour l'instant, la Chine choisit la voie diplomatique. Elle annonce un recours auprès de l'Organisation mondiale du commerce et promet des contre-mesures sans préciser pour autant lesquelles. Alors Pékin insiste, il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale. Mais pourquoi les taxes ? Washington accuse la Chine de faciliter l'exportation de précurseurs chimiques nécessaires à la fabrication de fentanyl. Et la réponse ferme de Pékin, le fentanyl est le problème de l'Amérique. Tout en rappelant sa coopération anti-drogue avec les États-Unis. Et pour contrer les taxes, quels sont les leviers possibles pour la Chine ? D'un côté, il y a le renforcement des liens commerciaux avec l'Europe et l'Asie. Et il y a aussi limiter l'exportation de minéraux critiques essentiels aux semi-conducteurs. C'est une mesure que Pékin a déjà utilisée contre Joe Biden. Après ses restrictions sur les transferts de technologies américaines. Et c'est une carte que la Chine pourrait ressortir face aux nouvelles taxes de Trump.
Merci Claire Broderst, en direct avec nous de Pékin.
Et Donald Trump qui promet des droits de douane sur les produits européens.
Ce sera pour très bientôt. Le président américain dit ne pas avoir de calendrier, mais le message est clair. Il l'a dit il y a quelques heures, alors que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui. Ils doivent discuter à Bruxelles des menaces de nouvelles taxes, mais aussi à des moyens de renforcer les défenses européennes face à la Russie. À Bruxelles, Elena Loison.
Même si ce sommet ne doit pas mener à des décisions, il doit permettre de fixer un cap et d'acter le besoin d'une défense européenne plus autonome. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, est d'ailleurs convié au dîner de travail avec les leaders européens pour la première fois depuis le Brexit. Cette réunion, qualifiée de retraite par le président du Conseil européen, Antonio Costa, doit surtout permettre d'accroître la coopération entre les États. Au menu des discussions, trois enjeux principaux: la nécessité de développer les capacités de défense européenne, d'accroître le financement, notamment privé, de la défense et d'optimiser les dépenses militaires, mais aussi le besoin de développer la relation entre l'OTAN et l'Union européenne. Car deux semaines après l'investiture de Donald Trump, les préoccupations sont très fortes concernant la situation au Proche-Orient, les cyberattaques contre les États membres, mais aussi concernant l'attitude américaine vis-à-vis de l'OTAN et de l'Ukraine, préoccupations renforcées par les dernières déclarations sur le Groenland du président américain. Elena Loison, Bruxelles, RFI.
RFI 8h12 à Paris, l'actualité en France. À présent, les députés étaient censés voter aujourd'hui la loi de finances 2025, mais le scrutin n'aura pas lieu.
Et le gouvernement ayant décidé d'engager sa responsabilité sur le texte pour éviter un rejet faute de majorité dans l'hémicycle. C'est le fameux article 49.3. François Bayrou et son cabinet auront donc à affronter automatiquement une nouvelle motion de censure mercredi ou jeudi. Et tous les scénarios restent sur la table, Aurélien Devernois.
Les calculettes vont être mises à contribution du côté de Matignon, car chaque voix risque de compter. La dernière motion de censure a certes été largement rejetée, mais surtout parce que le Rassemblement national ne l'avait pas soutenue et que les socialistes s'en étaient désolidarisés. Or, le RN pourrait cette fois changer d'avis. L'influent député Jean-Philippe Tanguy a ainsi affirmé dimanche qu'à titre personnel, il était pour la censure, tout en laissant la décision finale à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Du côté du PS, 8 députés avaient déjà choisi de censurer le gouvernement mi-janvier contre la consigne de groupe. Si une quinzaine de plus venait à changer d'avis et que le RN baissait le pouce, François Bayrou serait alors en très grand danger. Le Parti Socialiste va donc être de nouveau au centre de toutes les attentions. Les insoumis et écologistes ont martelé ces derniers jours que le budget en l'état était inacceptable. Si l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin s'est dit contre la censure samedi, toutes les options restent sur la table pour le patron des députés PS, Boris Vallaud. Les concessions concédées par le gouvernement seront-elles suffisantes pour sauver la tête de François Bayrou ? Le chemin est étroit, a répété le Premier ministre ce week-end, tout en affichant sa confiance dans les accords budgétaires trouvés.
Aurélien Devernois du service politique d'RFI.
Ils sont partout sur tous les continents sauf en Antarctique.
Et les rats pullulent dans toutes les grandes villes du monde qui dépensent chaque année 500 millions de dollars pour limiter leur propagation, mais sans succès. Or, selon une étude publiée vendredi dans la revue Science Advance, le réchauffement climatique et nos modes de vie contribuent à leur prolifération, Igor Strauss.
Des hivers plus doux, à peine quelques semaines plus chaudes par an, suffisent à stimuler la croissance de la population de rongeurs. Ce temps leur permet d'être en surface, de se nourrir et d'acquérir les ressources dont ils ont besoin pour se reproduire, précise le professeur Jonathan Richardson de l'université de Richmond et auteur principal de l'étude. Sur les 16 villes analysées, 11 présentaient une population croissante de rats, comme Washington DC, San Francisco et New York. Mais la densité de population est un autre facteur contribuant à l'augmentation du nombre de rongeurs. Les villes plus denses connaissent une croissance plus importante du nombre de rats. Bien que les humains aiment haïr ces animaux, ils créent souvent les conditions dont les rongeurs ont besoin pour prospérer. Les rats sont un reflet des gens et de leur comportement, explique la professeure Kaylee Byers, co-auteur de l'étude. Et d'ajouter, ils sont en bonne santé dans les villes grâce à la nourriture que nous leur fournissons et aux environnements que nous créons pour qu'ils s'épanouissent. Les maires des grandes villes savent à présent ce qu'il leur reste à faire.
Igor Strauss, enfin un tout petit mot de la cérémonie des Grammy Awards qui se tenait cette nuit. Beyoncé est devenue la première artiste noire à remporter le prix du meilleur album country pour Cowboy Carter, prix du meilleur duo country également.
Et on y revient dans le journal de 9h. Merci Jeanne Bartoli. 8h15 à Paris, à Madrid et à Berlin, la capitale allemande, où nous appellerons notre correspondant dans une poignée de minutes, l'Allemagne où une partie de la population exprime colère et inquiétude depuis les récents votes en commun de la CDU avec l'AFD, l'extrême droite, et cela 3 semaines avant des élections cruciales dans le pays. Mais d'abord la presse internationale. Frédéric Couteau à la une, la guerre commerciale mondiale est déclarée.
Les États-Unis et leurs plus grands partenaires commerciaux s'engouffrent dans une nouvelle ère de protectionnisme, soupire le New York Times. Le Canada, le Mexique et la Chine affirment qu'ils vont adopter des contre-mesures contre les nouveaux tarifs douaniers imposés par le président Trump. Résultat, commente le Wall Street Journal, la guerre commerciale la plus stupide de l'histoire est déclarée avec des retombées catastrophiques dans un contexte de nouvelles incertitudes économiques. Le quotidien économique américain fustige un assaut insensé contre le Mexique et le Canada, deux alliés dont les économies sont profondément imbriquées avec celles des États-Unis et qui, ironie du sort, se retrouvent plus durement frappés que le grand rival chinois.
Une guerre commerciale insensée renchérie El País à Madrid.
Une guerre qui pourrait sérieusement porter atteinte à l'économie mondiale tout entière, y compris celle des États-Unis. Les tarifs douaniers entraîneront d'énormes distorsions pour les entreprises, mais ils affecteront aussi directement, pointe le quotidien espagnol, les poches des citoyens en s'étendant aux produits de consommation, notamment aux produits agro alimentaire sous la forme d'une taxe à la consommation régressive qui devrait nuire aux familles à faible revenu. Dans le même temps, la hausse des prix pourrait contraindre la réserve fédérale américaine à maintenir ses taux d'intérêt élevés plus longtemps, comme l'a prévenu le FMI, entravant ainsi sa propre croissance. Qui plus est, pointe encore El País, cette guerre commerciale menace de s'étendre au reste du monde et en particulier de frapper durement l'Union européenne. Au-delà des représailles stratégiques, la réponse européenne devrait être de renforcer le marché unique et de parler au monde d'une seule voix pour conclure des accords commerciaux avec d'autres pays et blocs économiques en faveur de ses propres intérêts. Malheureusement, conclut le quotidien espagnol, malheureusement la situation politique en Europe n'aide pas.
Au Canada, c'est l'indignation.
Un conflit commercial aux répercussions dévastatrices vient d'être lancé sans fondement aucun, outre l'ambition protectionniste insatiable du dirigeant narcissique, dénonce Le Devoir à Québec. Donald Trump ne se contente plus d'être l'intimidateur en chef de ses alliés, il veut en être le bourreau, poursuit le quotidien canadien, qui estime au passage que les pays de l'Union européenne, d'Amérique du Sud et d'ailleurs auraient intérêt à voir venir la menace Trump à leur tour et à faire front commun avec le Canada et le Mexique pour lui tenir tête une fois pour toutes. Le président américain ne cédera peut-être qu'au poids financier du nombre. En tout cas, conclut Le Devoir, le Canada n'en est qu'au 15e jour de la seconde présidence de Donald Trump. Il faudra s'armer de patience et de sang-froid pour affronter les 1448 suivants.
Plus vite, plus haut, plus fort et surtout plus absurde, s'exaspère Libération à Paris.
Présentée par le milliardaire républicain comme une démonstration de puissance, cette offensive douanière s'apparente pourtant aux yeux de nombreux économistes à une balle dans le pied. Il s'agit peut-être du plus grand but contre son camp jamais marqué, pointe Mary Lovely, chercheuse au Peterson Institute for International Economics, qui voit dans la décision de Trump une recette pour ralentir l'économie et augmenter l'inflation. Et en effet, précise Libération, des fruits et légumes aux voitures, en passant par la bière, la viande, les matériaux de construction, les téléviseurs ou les smartphones, la liste des produits importés dont les prix risquent de grimper aux États-Unis semble infinie. D'après le Budget Lab de l'université de Yale, un centre de recherche indépendant, ces nouvelles taxes entraîneront pour un foyer américain moyen une perte de pouvoir d'achat d'environ 1 200 $ par an.
Enfin, le Corriere della Sera à Rome s'interroge.
Pourquoi Donald Trump déclenche-t-il cette guerre tarifaire sans même entamer de négociations et malgré les avertissements de presque tout le monde, même à droite du Wall Street Journal, on l'a vu, aux économistes conservateurs et aux groupes de réflexion selon lesquels cette guerre va nuire à l'économie américaine du fait de la résurgence de l'inflation et du gel des échanges. Réponse du Corriere della Sera, Trump est en plein délire. historico-économique. Il rêve de remplacer les impôts payés par les Américains par des droits de douane payés par les exportateurs étrangers. Et puis, il y a sa conception de la politique en termes non pas de coopération multilatérale, mais d'affirmation du leadership américain par l'usage de la force, notamment économique.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale, à retrouver comme chaque jour sur notre application RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.
RFI Matin.
En Espagne, Madrid, la capitale, est devenue la nouvelle capitale des Latino-Américains. Toutes et tous poussés par les crises économiques ou politiques. Ils étaient 80 000 il y a 20 ans. Ils sont aujourd'hui plus d'un million sur place. Les immigrés sud-américains représentent désormais 14% des habitants de Madrid. Une présence visible dans tous les quartiers de la capitale. Diane Cambon, reportage.
Dans son salon d'esthétique situé dans le quartier huppé de la capitale espagnole, Annabelle a parfois l'impression d'être dans sa Caracas natale. Cette Vénézuélienne de 42 ans s'est entourée d'employés qui, pour la plupart, viennent de son pays.
Avant, j'avais beaucoup d'élèves espagnols, mais maintenant, ce sont toutes des latinas. C'est incroyable le nombre de filles d'Amérique latine qui débarquent. Elles viennent de Colombie, du Venezuela, du Brésil, de toute l'Amérique du Sud. Elles cherchent une opportunité de travail et un salaire pour survivre et avoir rapidement leurs papiers. Suivre un cours d'esthétique, c'est une façon facile d'aller de l'avant, d'être indépendante financièrement et d'avoir une stabilité, car la majorité d'entre elles sont des femmes seules ou des mères de famille solo.
Annabelle est arrivée à Madrid en 2018. Elle fait partie de ces migrantes latino-américaines qui affichent sa réussite professionnelle en Espagne. Sa success story, elle la partage avec les jeunes filles latino-américaines qui débarquent tout juste à Madrid et à qui elle vient en aide en proposant des formations de manucure à moitié prix. Sofia, âgée tout juste de 24 ans, a débarqué en Espagne il y a à peine 4 mois. Assise à une table, cette Vénézuélienne apprend à poser de faux longs ongles recouverts de paillettes.
Dans mon pays, je ne pouvais trouver aucun travail. La délinquance est horrible là-bas. Il y a des endroits où seulement pour un regard, on te dépouille. Si tu as une petite boutique, tu dois constamment la surveiller pour ne pas être volé. Sans parler de l'inflation, des taxes ou des loyers très élevés.
La qualité de vie et la sécurité sont les principaux motifs qui poussent aussi ces dernières années des milliers de latino-américains de la classe moyenne ou aisée à traverser l'Atlantique. Sarah, mexicaine et mère de deux enfants, est venue avec son époux s'installer en Espagne juste après la pandémie.
Les États-Unis n'ont jamais été une option. Ici, nous avons des racines en commun avec l'Espagne. Et en plus, mon époux peut faire valoir que ses grands-parents étaient asturiens, ce qui lui a permis d'obtenir la nationalité espagnole. On a du coup une certaine connexion avec le pays.
Comme de nombreux latino-américains, Sarah espère obtenir la nationalité espagnole. Au terme de 2 ans de résidence légale en Espagne, la loi permet de solliciter la nationalité à certaines communautés d'Amérique latine. Diane Cambon à Madrid pour RFI.
Un reportage à retrouver en intégralité dans notre émission Action d'Europe et sur notre site RFI.fr. Et c'est sur cette question de l'immigration, mais en Allemagne cette fois, que les conservateurs de la CDU et l'extrême droite de l'AFD s'accordent ces dernières semaines et votent à l'unisson un séisme politique dans le pays à 3 semaines d'élections législatives cruciales pour lesquelles la CDU est favorite. Hier, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant le Bundestag à Berlin pour protester contre ce rapprochement avec l'extrême droite. Les critiques fusent contre les chrétiens démocrates allemands. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Berlin. Alors dites-nous Pascal, dans le détail, qu'est-ce qui explique ces critiques ?
Bien, ces critiques s'expliquent par la décision du candidat à la chancellerie de la CDU de présenter des textes restrictifs au Parlement la semaine dernière sur la politique migratoire. Il s'agissait d'une réaction à une nouvelle attaque au couteau commise par un migrant. Friedrich Merz voulait réagir après la vague d'émotion en Allemagne avant même les élections, sachant qu'une majorité d'Allemands défend des solutions plus fermes sur les questions migratoires. Mais en refusant d'exclure les voix du parti d'extrême droite lors des votes au Parlement, le président de la CDU a donné un coup de canif au cordon sanitaire qui entoure le parti AfD. C'est une première depuis la guerre. Une motion a ainsi été adoptée mercredi. Une proposition de loi de la CDU a en revanche vendredi été rejetée au Bundestag en raison de la défection de députés chrétiens-démocrates et libéraux. Les critiques, vous le disiez, fusent contre Friedrich Merz. L'ancienne chancelière Angela Merkel, dans un communiqué, a dénoncé la stratégie de son successeur.
Et Pascal, comment les Allemands perçoivent-ils ce qu'il s'est passé la semaine dernière ?
Alors, d'un côté, la stratégie de Friedrich Merz explique, vous l'évoquiez, de nombreuses manifestations contre l'extrême droite et la CDU. Ce week-end, sans doute, si on additionne les différentes manifestations, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté à travers l'Allemagne. Le rassemblement berlinois a été le plus large, 250 000 personnes d'après les organisateurs, 160 000 d'après la police. Les manifestants dénonçaient le tabou brisé par la CDU et le danger pour la démocratie d'un rapprochement avec l'extrême droite, aujourd'hui en deuxième position dans les sondages, avec un peu plus de 20%. Des protestations sont d'ailleurs attendues aujourd'hui sur place lors du congrès de la CDU. D'un autre côté, différents sondages montrent qu'une majorité d'Allemands soutient les positions fermes de la CDU sur l'immigration. Difficile donc de savoir si les chrétiens-démocrates vont profiter ou pâtir de leur stratégie risquée à 3 semaines des élections.
Et que faut-il attendre du congrès de ce lundi ?
Alors l'objectif à 3 semaines des élections, c'est de mettre en avant l'unité du parti, de serrer les rangs, d'autant plus que ces critiques sont nombreuses. L'aile libérale de la CDU actuellement ne bronche pas, entre guillemets, pour ne pas être accusé a posteriori d'avoir endommagé la campagne de Friedrich Merz. Le congrès d'aujourd'hui à Berlin doit adopter un programme proposant 15 mesures à mettre en place immédiatement en cas de victoire aux élections du 23 février. Ce plan reprend sur l'immigration les textes présentés la semaine dernière au Bundestag, mais les chrétiens-démocrates ne pourront pas gouverner seuls et auront du mal à trouver un partenaire de coalition qui accepterait ces mesures. La majorité du programme d'action qui doit être adopté aujourd'hui concerne, lui, des réformes économiques et sociales, baisse d'impôts, énergie moins chère, réduction de la bureaucratie. Les prochains sondages permettront peut-être de savoir si le va-tout risqué de Friedrich Merz lui profitera ou non.
Pascal Thibault en direct de Berlin, 8h26 à Paris.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est notre question d'environnement consacrée ce matin au greenwashing. Concrètement, c'est lorsqu'un produit ou une entreprise se présente avec une image responsable et soucieuse de l'environnement, alors que ça n'est pas vraiment le cas. Quand c'est simplement une façade écologique destinée à séduire les consommateurs, c'est du greenwashing, Jeanne Richard.
Oui, et peut-être que comme moi, vous avez déjà été séduit, voire rassuré par un produit bon pour la planète, respectueux de l'environnement ou même biodégradable, recyclé ou naturel. Des messages qui incitent à acheter. Près de 3 Français sur 4 affirment changer leur manière de consommer pour réduire leur impact environnemental, selon une étude de la répression des fraudes. Et pourtant, dans bien des cas, ce marketing est trompeur, c'est du greenwashing et c'est un problème qui va au-delà de l'arnaque aux consommateurs, car cela prouve que les entreprises ne font pas les avancées nécessaires, elles font juste semblant. C'est donc un frein plus global à la transition écologique.
Et quelles peuvent être les techniques de greenwashing ?
Alors ça peut être assez sournois, comme par exemple, utiliser la couleur verte dans un logo, notre cerveau pense alors que la marque est écolo. Ou bien, comme cette publicité de voiture à hydrogène avec des éoliennes en fond, faisant penser que l'hydrogène est une énergie propre, alors que l'immense majorité de l'hydrogène est aujourd'hui produit à partir d'énergies fossiles. Cela peut aussi être une information floue, exemple un emballage dit recyclable. Oui, mais on ne sait pas en combien de temps, si cela met des dizaines, voire des centaines d'années, alors ce n'est pas vraiment écolo non plus. Autre exemple, quand une célèbre entreprise de pétrole fait toute une publicité pour dire qu'elle est leader sur les énergies renouvelables, alors que plus de 95% de ses investissements vont dans les énergies fossiles polluantes.
Et en France, la loi Climat et Résilience de 2021 punit désormais le greenwashing. Où en est-on, Jeanne, du côté juridique ?
Alors désormais, le greenwashing est considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Cela veut dire que les entreprises peuvent être condamnées par la justice. Des procédures sont en cours contre Coca-Cola, Total Energy, ou encore contre New Balance et Adidas, par exemple, pour des pubs sur le pourcentage de matériaux recyclés dans leurs produits. Alors pour l'instant, on a encore très peu de décisions de justice, c'est encore trop nouveau. Mais Axel Denis, auteur du livre Alert Greenwashing, explique que les entreprises font quand même déjà un peu plus attention.
Aujourd'hui, le risque principal pour les entreprises, c'est pas forcément le risque juridique, c'est beaucoup plus le risque réputationnel. Sur les réseaux, aussi dans la presse, notamment avec des actions derrière de boycott, etc. C'est par là que aujourd'hui les entreprises ont le plus peur pour leur image et donc derrière pour leur chiffre d'affaires.
Et au niveau européen, depuis un an, certains termes ont été placés sur la liste noire des pratiques commerciales de l'UE et une législation plus large est en cours. Pour y voir plus clair dans la jungle des labels soi-disant verts et du marketing écologique.
Jeanne Richard pour notre question d'environnement ce matin. Merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous dans une poignée de secondes. Le retour de l'information africaine. On se retrouve juste après pour notre dernier point sur l'information sportive. Ce sera avec Antoine Grenier. Rendez-vous à 8h42, heure de Paris.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
émission spéciale recherche d'emploi pour les jeunes diplômés avec les conseils de nos spécialistes.
Demain,
plusieurs pays d'Afrique limitent l'importation de poulets. Qu'en pensez-vous ? Quel poulet consommez-vous ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur